Bonjour à tous et bienvenue chez Tiber Édition. Je suis ravie de vous accueillir sur ce nouveau format qui nous permettra de vous parler de nos livres illustrés, de la vie de notre maison d'édition, de nos métiers, de nos recommandations lecture et surtout ce podcast nous permettra de donner la parole à nos illustratrices et illustrateurs de talent. Le champ des possibles est vaste, je vous donne rendez-vous sur Instagram et sur vos plateformes d'écoute préférées pour ne manquer aucune sortie. J'espère que ça vous plaira et maintenant, place à l'épisode. Allez, c'est parti. Bonjour Anne, merci d'être avec moi pour faire aujourd'hui un What's in my bibliothèque en bon français. Mais d'abord, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie ?
Eh ben bonjour Marjolaine, bonjour. Je suis contente d'être là et de parler à littérature, c'est trop bien. Donc moi je m'appelle Anne, j'ai 35 ans et je suis illustratrice donc à mon compte depuis 8 ans.
D'accord.
Et je suis aussi également assez adepte des bons livres.
Ouais, et ben justement parlons-en des bons livres, je crois que tu as fait une petite sélection de 4 ouvrages dont tu aimerais nous parler. Ben, je te laisse commencer par ton préf du monde entier.
Ah moi je peux pas commencer une sélection de livres sans parler de mon chouchou.
Okay, ouais.
Mon chouchou, c'est Tolkien.
Ah.
Et oui.
D'accord.
Voilà. Donc lui, c'est mon chouchou depuis l'adolescence, en fait.
Oh, d'accord.
Voilà. Donc Tolkien, j'ai fait mon adolescence à côté de lui, on peut le dire. Il m'a accompagnée. J'étais complètement subjuguée par son univers. C'était la grande époque des forums sur Internet.
Ok.
Donc j'étais à fond là-dedans. On analysait tout ça, peut-être l'article sur tel ou tel sujet. C'est l'époque, en fait, où il y a eu les films qui sont sortis.
Oui. Et c'est ça qui t'a poussé à les lire.
Et bah ouais, malheureusement, j'aime pas trop le dire, mais il faut être honnête. Il y en a, ils ont d'abord aimé
le. C'est bien si le cinéma t'amène à découvrir l'œuvre.
Oui, je sais. Mais c'est vrai que c'est ça en fait. Moi j'ai commencé par d'abord aimer les films, c'est ça qui m'a fait aller un peu farfouiller sur Internet, les forums et tout, et je suis tombée sur les puristes.
Et en fait, attention, ne dis pas n'importe quoi.
Et ils m'ont amené en fait à découvrir ce que c'était vraiment l'œuvre de Tolkien. Donc j'avais 16 ans, 17 ans, et je me suis plongée dedans. Et puis moi j'aime toujours les films parce que ça reste des super moments à passer, mais il y a aussi des aberrations, les puristes le savent.
Tu vas regarder la série qui va sortir là sur Amazon Prime.
Ouais, je me fais aucune illusion. Ouais, j'ai pas peur, je suis sûre que ça va être nul. En fait,
tout de suite.
Non, mais parce qu'en fait, il faut savoir que cette série, elle se base sur aucun livre de Tolkien. Elle se base sur l'univers de Tolkien.
D'accord.
Sur une période où il n'y a pas d'écrit. Donc, ils vont être en freestyle total.
Ah ouais.
Moi, j'ai regardé la série La Roue du Temps qui part d'un monument de la fantaisie. Ouais. J'ai regardé 3 épisodes. J'ai essayé de m'accrocher, c'était nul. Et c'est Amazon. Donc, voilà. C'est juste ça. Voilà.
On ne peut pas dénoncer, mais quand même.
Voilà. Donc, c'est tout. C'est que mon point de vue, mais voilà.
Ok. Donc, au-delà de t'intéresser à la littérature, je sais qu'il y a beaucoup d'expositions parce que Tolkien est un linguiste de génie. Le peu de connaissances que j'ai sur Tolkien, parce que j'ai écouté des podcasts aussi. On parlait de Tolkien et surtout de son travail de linguiste, etc. Est-ce que tu t'intéresses aussi à l'homme derrière l'ouvrage ou tu t'es juste plongé dans les livres
Non, mais si, on est obligé en fait parce que c'est l'œuvre de sa vie, c'est sa vie entière à Tolkien et du coup il est. Ouais, c'est un génie.
C'est un génie, c'est dit.
Effectivement, il y a eu une exposition
il n'y a pas longtemps, c'était l'année dernière.
À la Bibliothèque nationale. Là.
C'est ça.
Ouais. C'était juste avant le Covid, c'était en février.
D'accord.
Je suis allée en février, mais juste avant.
Ah, t'y allais.
Ouais, bien sûr.
Bien sûr.
Ouais, j'y suis allée et c'était magique parce que c'était. Alors, pour quand on aime vraiment les écrits de Tolkien, c'était très émouvant d'avoir des originaux devant soi. D'avoir par exemple une pièce incroyable, c'est le premier titre qu'il avait donné au Seigneur des Anneaux.
C'était quoi ?
C'était The Magic Ring, je crois. Donc,
ok. Ouais.
Assez naze.
C'est moins.
Mais il faut savoir que le Seigneur des Anneaux, quand il a commencé à l'écrire, c'était pour faire la suite de Bilbo.
D'accord.
Qui est un livre pour enfants.
Ok.
Et du coup, au départ, il partait sur puis un jour, il a appelé son éditeur, il a dit ça part complètement. Il
a envoyé un télégramme, voilà.
Je sais pas comment il l'a contacté, mais en fait, il lui a dit ça part en vrille, mon truc, je suis sur un truc de fou et c'est plus la même chose que Bilbo, quoi.
D'accord.
Donc, il avait écrit The Magic Ring et après, on voit une petite annotation, il dit ma fille aime pas et du coup, il a pour sa fille, je crois, il a raturé le truc, genre non. Et là, on voit The Lord of the Rings. Ring.
Ça, c'est un super papa.
Ouais, c'est trop émouvant. Ouais, on avait des pièces vraiment très, très émouvantes. On arrive dans une pièce où on entend sa voix, parce qu'il s'est enregistré disant tout ce qui est écrit sur l'anneau au début. Un anneau pour les gouverner tous, et on l'entend dire ça, on l'entend parler en langue du Mordor, en langue elfique, c'est génial, le gars il était à fond. Donc quand on aime, c'est vrai que c'est super émouvant quoi.
Ok, ouais. Bon bah alors Tolkien, toutes ses œuvres, tous ses livres.
Oui, alors
t'as une préférence?
Mais oui,
oui, d'accord, alors.
J'ai une préférence, okay. Et c'est pas la préférence habituelle, parce que la préférence habituelle, bon, ça reste Le Seigneur des Anneaux, c'est monstrueux, c'est incroyable, c'est waouh. Ouais. Mais moi j'ai une préférence pour le Silmarillion.
Ah, je ne connais absolument pas.
Bien, le Silmarillion, c'est en fait, c'est comment dire, la Bible, c'est l'origine, c'est la mythologie.
D'accord.
En fait, ouais, c'est pas la Bible, c'est la mythologie. Enfin, ce serait le début, la Genèse, quoi.
D'accord.
Donc, on a les dieux, la création du monde de Tolkien, la création des elfes, l'arrivée des elfes, les premières guerres, le dieu qui fait, comme dans la religion catholique aussi, là, on a le dieu qui devient méchant, un des dieux, un des anges.
D'accord.
Qui devient méchant et qui devient le mal et qui vient tout détruire, et il faut laisser les batailles entre dieux, et ça c'est juste incroyable. Donc le Silmarillion, il est d'une poésie, parce qu'en fait le dieu, le grand dieu là, il crée le monde en faisant par la musique, dans la musique, c'est juste magnifique en fait.
Ça donne envie de... ouais, ouais. J'avoue, je dois l'avouer, je n'ai jamais lu Tolkien.
C'est vrai?
Oh, alors, ah, jamais.
Peut-être que...
J'ai 34 ans, bientôt. Peut-être que ça va me donner envie. Ça me donne envie, ouais, d'aller, ouais, ouvrir.
Ouais, c'est très, très poétique. Les dieux, ils ont chacun des rôles incroyables. Il y en a une, allez, moi, elle me fait trop kiffer. Je crois qu'elle s'appelle Nyena.
Ouais.
Ça fait longtemps que c'était mon, oui, adolescence. Je, oui, connaissais tout par cœur. Maintenant, je ressors des trucs. Et Nyena, ou quelque chose comme ça. Et alors, elle pleure sur le monde. Et ça guérit le monde, en fait, c'est magnifique, quoi. Donc, par ses larmes qui tombent sur le sol, ça, elle guérit les plaies du monde. C'est magnifique, enfin, tout est beau.
Ouais, je comprends pourquoi on peut être passionné. En tout cas, tu nous donnes envie, ouais, d'aller découvrir l'œuvre de Tolkien. Ok, bon, alors forcément, le deuxième ouvrage...
Non, là, en vrai sens...
Alors là, c'est plus du tout la même.
Non, mais il fallait que je commence par,
oui,
lui.
Oui, par ton préféré, voilà. Ta passion, ce qui a été ta passion, ouais, ce qui fut ta passion.
Et puis qui reste quand même en fond. J'ai rencontré mon mari grâce à Tolkien, quand même.
Alors, okay. Raconte-nous ça, on aime bien les histoires.
Non, mais voilà, c'est l'histoire de forum et tout ça. On était devenus amis par là. Et puis c'est, voilà, ça a duré longtemps, c'est connu. Enfin, voilà. Mais vraiment, à la base, c'est par Tolkien qu'on s'est connus. Notre table de mariage, c'était la table Tolkien. Donc,
ah
voilà,
oui,
il y a un truc, quoi.
Ok, il y a un truc autour de Tolkien. Ok. Du coup,
voilà.
Qui est à la deuxième place dans ton podium?
Alors, la deuxième place, c'est un roman qui, lui, m'a vraiment marqué, comment dire, mon intérêt pour l'histoire.
D'accord.
Voilà.
L'histoire, quelle période?
L'histoire avec un grand H.
L'histoire en général, d'accord.
J'ai toujours bien aimé ça, mais c'est pas l'école qui m'a fait aimer ça, par exemple. Ils m'ont pas intéressé à ça, l'école. Ils nous balançaient des périodes sans nous faire de lien entre elles. Il n'y avait pas... voilà. Moi, c'est quand j'étais en BTS, par contre, j'avais une super prof. Et elle a commencé... C'était une prof d'histoire de l'art. Elle a commencé par nous faire toute l'histoire de France en nous la racontant comme une conteuse. C'était incroyable. J'ai enfin compris le lien entre certaines périodes et,
ouais,
et le lien...
L'évolution de nos sociétés,
oui,
de nos
de l'architecture, de la peinture, voilà, ouais. Et c'était... Bon, ok, déjà, elle avait commencé à
t'intéresser, à allumer quelque chose...
Voilà. Et j'aime beaucoup les romans historiques.
D'accord.
Donc malheureusement, il y a beaucoup de romans historiques un peu...
bas de gamme.
Voilà, on, ouais, va le dire. Mais j'ai commencé par eux à la base. Oui. Bah, voilà. Et au départ, ça m'a maintenue dans ce truc-là. Et un jour, je suis tombée sur Fortune de France.
Non mais...
De Robert Merle. Ben, oula, oui, j'alluminais tout ça.
Non mais oui, mais c'est... T'as les rois maudits et t'as Fortune de France. Le Marquis de Sura, enfin, je veux dire, c'est...
Ouais, c'est vrai que les rois maudits, c'est sympa aussi.
Aimer les rois maudits, on connaît, ouais, etc., mais on connaît beaucoup moins Fortune de France, mais c'est un bonbon, enfin,
c'est
moi,
incroyable,
je...
Incroyable, Fortune de France, donc de Robert Merle, ah, voilà, pas de les citer. Donc en 13 tomes, tout simplement.
13 tomes, oui, mais... Oh, en livre de poche, c'est pas mal, oui.
Ah, moi, j'ai lu ça en livre de poche.
Moi, j'ai tout livre, moi, j'ai tout lu...
J'ai tout lu dessus, aussi, après, je trouve que la fin, quand ça passe à son fils, c'est un peu naze, voilà. Je le dis, j'ai continué, parce que je m'étais trop attachée au truc. et que j'aime trop la fresque que c'est.
Oui, parce que, alors, faut dire, ça commence, c'est l'un de mes livres préférés aussi, donc voilà.
C'est souvent, quand j'en parle, on voit pas ce que c'est.
Moi, c'est sur ma bibliothèque, génial, dans mon appartement, je me les refais régulièrement. C'est la vrai. Volte des Vertugadins, tout ça, enfin bref.
Alors moi, ça fait longtemps, hein, j'ai pas tout, mais...
Ça commence donc avant les premières guerres de religion, donc avant Henri IV, donc sur Henri III, voilà, quand c'est encore les Valois, et ça finit la jeunesse de Louis XIV.
Oui, Louis XIV,
jusqu'à Louis XIV, et on suit une famille avec ses valets, c'est tout ça, ses amours, le libertinage.
On suit en fait un personnage fictif, mais qui évolue que dans des événements qui sont vrais, qui sont bien écrits, Robert Merle, c'est pas n'importe qui, et tout ce qui relate sur les guerres de religion, sur la vie à la cour, sur les intrigues et tout ça, est vrai.
On y est, voilà.
Moi, je vérifiais, parfois, me disant, ça, c'est trop gros, je veux voir, et j'allais vérifier, c'était vrai. Donc, j'étais contente, parce que j'étais pas en train d'apprendre n'importe quoi. Et ça m'a fait, Trivial Poursuite sur la, sur la période Renaissance, je suis incollable.
Ok, ça a aidé.
Mais je te jure, moi j'adore le Trivial Poursuite et les questions d'histoire surtout. Et alors quand je change, et alors si j'ai faux, je suis mais mortifiée.
Ah ouais, c'est ça, c'est.
Je m'en veux terriblement.
Tout le monde dit, Marjane, tu sais. Marjane.
J'adore.
Ah ouais, non, alors, Fortune de France,
c'est une période qui est très sombre et vraiment pas jojo. Franchement,
c'était un petit peu originaux, les Valois, les tout, les débuts des Bourbons.
C'est le recul de certaines choses, comme la position des femmes, qui avait une position vachement mieux au Moyen-Âge qu'à la Renaissance, sur les religions, au secours, la médecine. Donc c'est quand même une période plutôt d'obscurantisme total. Mais bon, quand on s'y intéresse,
c'est très intéressant. Mais quand même, l'art, parce que sous François Ier, la Renaissance, les fameux châteaux de la Loire, etc. Enfin voilà, au niveau aussi, c'est bizarre parce que c'est une période à double tranchant, on va dire, où c'est l'obscurantisme religieux, mais alors la débauche au niveau architecture. Oui, voilà.
Henri IV,
le Vergalant, bonjour.
Le Vergalant, bon, alors ça, c'est sa vie personnelle, mais ça restait un gars qui était d'une tolérance quand même assez.
Et proche de son peuple, qui changeait de religion, parce que Paris vaut bien une messe.
Exactement.
C'est son intérêt politique qui décide sa religion. Ouais, voilà.
Non, mais enfin bon, à l'époque, après, on se tape quand même sa petite lignée sympathique. La suite des Bourbons fait quand même pas rêver. Le premier est sympa, les autres font pas rêver.
Le premier n'a pas d'envergure, Louis XIII. Mais je pense qu'on sort de nos.
C'est ça qui donne les frissons en lisant Robert Merle, c'est qu'on est plongé dedans et c'est génial. On a aussi, ça commence quand même aussi dans les premiers temps avec la Saint-Barthélemy. Qui est hyper bien décrite et qui fait froid dans le dos.
On 1572, je crois. En août, 1572.
Août.
Ouais, voilà.
1572. Vers 22, 23, août. Ouais, on sent.
Là-bas, quoi.
Le glas de Saint-Germain-l'Auxerrois, je crois.
C'est ça, ouais.
Le toxin. C'est hyper bien parce que lui, le héros, est donc, je crois, est catholique, mais il a un demi-frère protestant, il me semble. Enfin, il est très lié là-dessus, il est entre les deux. C'est assez peu manichéen. On a les catholiques méchants, mais de temps en temps, les protestants sont pas non plus. Enfin bref. Donc c'est vachement bien là-dessus. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop manichéen.
Ouais. Il faut le lire. Je pense que les auditeurs, en ayant écouté, commandez-le, je suis sûre que vous pouvez le trouver sur Recycle Livre ou d'occasion, etc. Parce que c'est vrai que 13 tomes, ça peut faire un peu peur. Mais vous n'êtes pas obligé de.
Il n'y a pas de
fin.
C'est
ça. Allez-y, quoi.
Complètement. Et alors, moi, ce que j'avais beaucoup aimé aussi dans Fortune de France, c'est que le héros, donc Pierre de Siorac, il fait des études de médecine à Montpellier.
Oui.
Et j'avais adoré parce que Montpellier, à cette époque-là, c'est un peu l'endroit un peu le plus. Abouti au niveau des études de médecine, et c'est vrai historiquement, et on suit un peu ses recherches, ses études, ses autopsies interdites et tout ça, et j'avais appris plein de choses sur la médecine, c'est vachement intéressant, parce que la médecine...
Comment elle était traitée à l'époque, pour faire avancer la connaissance du corps humain, on était obligé de gruger, d'aller contre les lois catholiques, il pouvait arriver des...
Puis à l'époque, avant, il y avait les médecins étaient des barbiers, enfin... C'est un truc qu'on ne comprend pas à notre époque, le rapport. Et en fait, voilà, ça, c'est aussi un aspect que j'ai trouvé très intéressant.
Ok, achetez-les.
fortune de France.
C'est compliqué le troisième là, parce que les deux premiers, voilà. Il me tarde de savoir de quoi tu vas nous parler après. Parce que là, on a fait fort, hein, j'avoue.
Ah, on est bien là.
Là, on est bien. On Robert Mer, Tolkien, je pense que là, ok.
On commence
peut,
fort.
Bon. On peut vivre une vie passionnée.
Ah, ouais, ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai que bon, là, je parle que vraiment des trucs que j'ai vraiment aimé. Oui, je parle pas de mes dernières lectures, je parle de ce qui m'a marqué.
Mais t'inquiète, on y viendra, ta dernière lecture.
De toute façon, elle est dedans.
Ah, d'accord.
Donc voilà. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Je m'en débarrasse. Donc ensuite, je voulais parler des fleurs pour Algernon.
Ah.
Ah non, ça...
Non.
Non, bon. Alors, par contre, j'ai un problème, c'est que je sais pas comment se prononce le nom de l'auteur. Donc je vais le dire comme je le pense.
Vas-y.
Daniel Keyes. Alors, Keyes, Keyes, je sais pas.
Keyes.
Keyes. On va rester sur Keyes.
D'accord,
mais
donc des fleurs pour...
Pour Algernon.
Ou Algernon. Algernon, ok.
Je sais pas comment les gens le prononcent.
De quoi ça parle, les fleurs?
Alors, les fleurs pour Algernon, c'est un... Je sais pas si... Bon, les gens vont peut-être me dire que c'est pas vrai, mais bon, je mettrais ça un peu en science-fiction.
D'accord.
Sur le fait que ça... Bon, je vais expliquer l'histoire, ça sera plus simple. Mais c'est... Moi, j'ai lu ça il y a peut-être 2-3 ans. J'ai trop aimé. Alors, en fait, c'est... le héros, c'est... il s'appelle Charlie. C'est un trentenaire qui a un retard mental.
D'accord, ok.
Il travaille dans une... Bon, il est quand même capable de travailler. Il travaille dans une boulangerie, voilà, et... il est plutôt heureux dans sa boulangerie parce qu'il se rend pas compte en fait de quand on le pigeonne, de quand on le raille et tout ça. Il se rend pas compte.
Ok.
Voilà. Il est de bonne volonté, il est sympa, il suit des cours un peu pour adapter à lui et tout. Et comme il est capable d'un peu de progrès, il y a deux chercheurs qui lui proposent de lui faire une opération.
Ok.
Pour, visant à augmenter ses capacités mentales. Et cette opération, il la propose sur lui parce qu'elle a fonctionné sur une souris.
D'accord.
Une souris qui s'appelle Algernon,
okay.
Qui est devenue une ouf, qui est capable de sortir de labyrinthes les plus incroyables, de souvenirs de techniques qu'elle a utilisées avant. Donc ça a été un succès, donc il propose...
C'est un test, une expérimentation.
Ouais, d'accord. Donc il accepte. Il accepte, il est opéré, et en fait, le livre est sous forme de journal intime qui est tenu par ce gars-là.
D'accord.
Et donc, ça, c'est des comptes rendus, en fait, plus ou moins, qu'il fait. Il doit écrire régulièrement. Et donc, au début, on voit un gars qui parle assez sottement, avec des fautes partout, qui dit des choses très... qui nous paraissent un peu ridicules. Voilà, il comprend pas tout ce qu'on lui dit, tout ça. Et puis, petit à petit, on le voit qui évolue et qui devient intelligent. Au bout d'un moment, il devient carrément brillant, le gars.
D'accord.
Il est devenu super brillant, il fait avancer des recherches et tout. Sauf que tout ça est très rapide, et il n'a pas la maturité qui a évolué avec.
Pour accepter son changement de...
Complètement.
D'être, en fait.
Donc, ses relations avec les autres sont difficiles, parce que, par exemple, ses collègues à la boulangerie, ils ne captent pas ce changement. Lui, il arrive maintenant à les casser, comme on dit. Et il hallucine un peu, il l'aime plus trop, quoi.
Ouais.
Lui-même commence aussi à se rendre compte de ce qu'on lui disait avant, de ce qu'on lui faisait. C'est difficile pour lui.
Il était traité, d'avoir accepté d'être maltraité.
Exactement.
Mais de bonne foi, parce qu'il ne s'en rendait pas compte, d'accord.
Il ne s'en rendait pas compte du tout, mais il se rend compte de comment on le traitait avant. Il commence aussi à analyser son enfance et il se souvient de choses traumatisantes, de sa mère qui n'a pas du tout accepté son handicap, de choses comme ça. Donc il commence à... Et il devient un peu fou de tout ça. Hein. Il commence à avoir des relations amoureuses, mais ça ne marche pas parce que c'est un gamin, en fait, encore. Il a pas eu le temps de mûrir et tout
il
ça.
Il est brillant, mais pas...
Mais d'intelligence seulement.
C'est ça, juste d'intelligence. C'est pas lui, il est pas mature en lui-même pour accepter et s'adapter à son...
Donc c'est très intéressant parce que c'est son introspection qu'on suit, parce que c'est lui qui écrit. Il se fâche aussi avec ceux de les deux chercheurs, tout ça, parce qu'il croit qu'on l'a pris pour un débile au début, tout ça. Et puis il s'occupe d'Algernon en même temps, c'est un peu devenu sa copine. Et puis Algernon, elle commence un peu à aller mal. Et elle finit par mourir.
Ah, yeah.
Et là, il comprend. Et avec les chercheurs, il comprend que lui aussi, ça va. En fait, ça va repartir, quoi. L'opération, elle n'est pas permanente.
D'accord.
Et là, il a les boules. Parce qu'il sait qu'il va redevenir... Enfin, on imagine...
Ouais.
On imagine
retomber dans ce qu'il était avant.
Avant, il
ne se rend
pas compte qu'il est
peut-être petit, peut-être pire.
C'est ce qu'il lui dit, hein. C'est ses mots. Parce qu'on ne va pas dire ça.
Il
a un retard. Il est handicapé, tout simplement. Et en fait, il ne s'en rendait pas compte. Parce que ces gens-là, ils vivent...
Heureux les ignorants,
bien sûr. Et sauf que là, maintenant, il sait. Et c'est hyper dur pour lui de se voir redevenir...
Et régresser.
Et régresser. Et là, on suit ça, et c'est incroyable. Et on retrouve tout à coup des mots plus... Ouais. Voilà. Et sauf qu'il ne peut plus revenir à sa vie d'avant. Parce que maintenant, il sait, malgré tout, même s'il redevient cette personne un peu limitée intellectuelle.
En fait, ça rend malheureux.
Il est hyper malheureux. Et en fait, je vais peut-être pas dire la
fin. Non, pas la fin.
Voilà. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de lire toute son introspection et de voir au début son évolution et puis de revoir sa régression. C'est très poignant, c'est hyper émouvant. Ouais, c'est très émouvant en fait à lire. Et d'accord. Ça fait réfléchir beaucoup. Moi, ça m'a fait cogiter, voilà, c'est tout.
Et comment t'avais découvert ce livre ? On te l'a conseillé ?
Moi, j'ai un mari très lecteur, on a une bibliothèque remplie, et j'ai pas lu les trois quarts de ce qu'il y a dedans, et donc, je l'ai pris.
Il était là, tu l'as pris, tu l'as trouvé.
De temps en temps, comme ça, je fais ça, je prends. Et puis, c'est quand même un livre connu, c'est un livre classique quand même, donc des fois, j'aime bien aussi combler des lacunes, des trucs que j'ai pas lus, des classiques...
D'accord.
Et là, j'étais vraiment pas déçue. Donc, je conseille, vraiment.
D'accord, très, 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 Je pense qu'on arrive à ta dernière recommandation.
Ouais. Alors, ma dernière recommandation, quand même, je suis illustratrice, donc j'avais quand même envie qu'il y ait une BD. Quand même. Ah, mais non, c'est pas ma dernière, en fait. J'en avais 5.
Ah, bah d'accord. Voilà, mon dernière. C'est pas grave.
On fait la BD quand même, parce que j'en ai quand même trop dit.
On aime bien la surprise, nous.
Ouais, ben non. Non, puis je peux pas faire...
D'accord.
Je peux pas l'annuler.
En fait, quand on parle de livres, on pourrait y passer...
C'est clair. Non, mais en plus, moi, à la base, je suis pas très BD, mais comme maintenant, je suis dans cet univers, j'en ai fait une et tout, maintenant, je suis très BD. Et du coup...
À la base, t'es pas BD alors que t'es dessinatrice.
Quand j'étais gamine, j'avais pas tous les Tintins. J'étais pas, voilà, pas spécialement...
Pas Tintin. Plutôt Astérix ou Lucky.
Non, mais j'aimais bien ces trucs-là. Mais j'étais... Non, moi, j'étais plus Torgal, en plus.
Ah, oui, Torgal. Voilà. C'est bien Torgal. Ouais, oui. Mais Torgal, t'as des Torgal. Nous, ils nous en avaient fait acheter une quand on était au collège ou au lycée pour justement étudier l'objet bande dessinée. On avait Torgal avec la maladie bleue, là où il se...
Le mal bleu.
Mais mon Dieu, mais c'est trop...
Non, mais moi j'aime bien les trucs avec de la mythologie. D'accord. La mythologie nordique est super sympa. Donc, Moi j'aimais bien Torgal. Okay. Mais bon, je veux dire, voilà, j'étais pas avec de la BD partout.
Oui, d'accord.
Pas spécialement.
Ou du manga. Je sais pas s'il y a.
Ah, j'aime pas trop ça.
Ah ouais?
Ah, par contre. Ah. Pas ma tasse de thé du tout. Mais aussi parce que je suis assez ignorante. Hein.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Tout simple. J'ai pas du tout baigné là-dedans. Donc voilà.
D'accord.
Donc c'est tout.
D'accord. Ok, donc alors une BD, quel est ton choix ?
Et alors moi, j'en lis beaucoup, beaucoup maintenant, parce que déjà ça me nourrit beaucoup, ça me fait progresser, j'aime bien ça. Et dans les dernières que j'ai pu lire, bon, il y en a plein dont j'aurais envie de parler, hein, mais j'avais envie de parler de celle qui s'appelle L'Arabe du futur.
Oui.
Oui,
d'accord.
Oh, j'aime bien la tendresse qui est dans ce livre.
Riyad Satouf, c'est ça. Oui.
Alors j'aime beaucoup Riyad Satouf parce qu'il y a beaucoup de textes et tout le texte est trop sympa à lire.
Ouais.
Ça, j'adore lire ce qu'il écrit.
C'est un breton. Détails. Breton élevé.
Ouais, breton syrien.
Breton syrien, voilà, c'est ça.
C'est drôle quand même. C'est breton, ça. Breton syrien. et donc, j'aime bien tout ce qu'il fait, les cahiers d'Esther et tout ça, j'aime beaucoup. Mais L'Arabe du futur, ça a été un vrai coup de cœur. Parce que c'est très sérieux en fait. Et ça m'a appris beaucoup de choses et je trouve que ça ouvre pas mal les yeux. Et donc, je résume vite fait quoi ça passe.
Vas-y, ouais.
Donc, c'est la vie de Riyad, en fait, Satouf. C'est son enfance. Donc, Riyad Satouf, effectivement, il a une maman bretonne et un papa syrien qui se sont rencontrés à la fac, je crois.
Ouais.
Et, a priori, maman moderne et tout ça. Papa, quand même, qui l'a suivi et tout au début. Mais il décide de retourner vivre. Alors, d'abord en Libye et après, ils vont carrément en Syrie dans un village, hein, ils vont pas dans les grandes villes, ils sont dans un village qui s'appelle Termalet, je crois.
Ouais.
Et donc, il passe une bonne partie de son enfance là-bas, et on suit un peu... alors déjà, c'est une période spéciale, hein, dans ces pays-là, c'est une période où ils sont sous le socialisme, donc il y a des choses que j'ai apprises incroyables, sérieusement. Par exemple, quand il arrive, je crois que c'est au début, c'est en Libye, les maisons n'appartiennent à personne, première entrée, premier service, tu fermes pas la porte à clé, il n'y a pas de clé en fait, c'est interdit de mettre un verrou. Et si personne reste dans la maison, il y a le risque le soir que ce soit quelqu'un d'autre qui habite là.
C'est la communauté.
Ouais, mais c'est incroyable. C'est quand même très...
C'est
étonnant.
On n'imagine pas, et en fait, c'est pas une histoire qu'on nous apprend.
Pas du tout. Bah, après, il faut s'y intéresser pour savoir.
Oui, bien sûr.
Et je m'y étais pas spécialement intéressée, donc voilà. Et sa maman, on imagine un petit peu... voilà.
Oui.
c'est particulier. Riyad, il arrive là-dedans, bon, il doit... Alors, au bout d'un moment, il va à l'école, parce qu'au départ, sa maman lui fait l'école à la maison, mais son papa insiste. Son papa, il est docteur en, ouais. je sais plus.
C'est bon. Histoire ou c'est...
Je sais plus. Enfin, il est docteur en faculté.
Oui,
quoi.
Voilà.
Et alors, il est très fier de ça. Ouais, il voudrait que son fils soit carrément docteur en médecine. et donc, c'est très sérieux dans le côté contexte du pays, contexte de la famille, pression aussi familiale, ouais. Tout ça. Mais c'est aussi très drôle. Alors moi, je vais raconter une anecdote parce que je l'adore.
Ok.
C'est qu'à un moment, il y a sa maman, quand il est petit, qui lui dit « Ah, regarde, c'est Georges Brassens. » Georges Brassens, c'est un dieu de la musique. Okay. Et donc, son père arrive en disant « Ça va pas dire ça, on dit pas ça Dieu, Dieu c'est Allah, tout ça, machin. » Sauf que Riyad, toute sa vie, quand on lui parle de Dieu, il voit Georges Brassens. Ben. Mais c'est trop drôle.
Et puis, Georges Brassens, c'est un dieu de la musique, franchement...
Non, mais ça, ça c'est pas remis en cause. Mais alors, on voit ces bulles de BD où même à 14 ans, quand on lui parle de Dieu, et on voit Georges Brassens avec sa moustache et sa guitare, c'est hyper drôle. J'adore. C'est vraiment très drôle.
Ouais.
Et après, il y a donc ces...
C'est en combien de tomes déjà ?
Cinq tomes, mais je crois que c'est pas fini, par contre.
Non, c'est pas fini. Et puis le cinquième est sorti là, à Noël, où il y a pas très très longtemps. Ouais, donc,
Mais il y a pas mal de pages, on en a plus là. Et donc, ça va de pire en pire, en fait. C'est-à-dire qu'entre ses parents, ça va de moins en moins bien. Ils arrêtent pas de faire des allers-retours entre la Bretagne et la France. Ça va beaucoup plaire aux indépendantistes.
Oui, exactement.
Entre la Bretagne et la Syrie, son papa se radicalise de plus en plus. Mmh. Il dit quand même de plus en plus, ça c'est n'importe quoi. Sa maman, ça va pas, elle en a un peu plus. Mmh. Donc c'est difficile. Après, il est scolarisé à Rennes. Alors ça m'a beaucoup amusé parce que moi j'ai vécu 6 ans à Rennes. Donc c'est assez drôle. D'accord. Il parlait de quartier que je connaissais. C'était sympa. et voilà. Et donc ça se termine. Enfin, c'est pas fini, mais je veux dire, c'est de pire en pire quoi. C'est de plus en plus grave. Mais toujours avec l'humour quand même de Riyad Sattouf.
Oui, Riyad Sattouf, moi j'aime beaucoup le suivre sur ses réseaux sociaux. Oui, et puis surtout, il a ouvert une petite boutique où tu peux acheter certains de ses dessins.
Oui, des impressions.
Signé, et puis des impressions un peu avec ses... C'est beaucoup la Bretagne, avec les couchers de soleil en Bretagne, quand il fait 12 degrés, on va se baigner, etc., parce qu'on est breton. J'aime beaucoup, c'est tout un univers. Et puis, là, j'aime bien, il a une certaine bonhomie, Riyad Sattouf, t'as envie de l'écouter, voilà, il a l'air sympa. Et puis, ce qu'il écrit, c'est... C'est cool, donc
c'est super sympa. Les cahiers d'espère, c'est à mourir de rire.
J'ai jamais...
C'est génial, c'est... Bah, visiblement, c'est écrit à chaque fois que c'est raconté par...
Une ado.
Donc, il y a l'année de ses 12 ans, de ses 13 ans, machin. Et c'est assez drôle, c'est très drôle, même. C'est vraiment très drôle.
Ok, donc là, c'était ton choix BD. Ouais. Et moi, j'ai une petite question pour la BD. Est-ce que parfois, t'as pas... vu que t'en lis beaucoup maintenant, moi, parfois, j'ai l'impression qu'il y a une insatisfaction, ça va trop vite, la BD.
Ah ben oui, c'est clair.
Donc tu fais, il faut relire, tu vois, parce que t'as l'impression que tu profites pas de l'histoire et que ça va trop vite. C'est pas un bon roman de 800 pages. Ouais. Ouais, alors tu savoures, ça pour les bien, écrire, type Madame Bovary. Et tout ça, donc voilà. Mais là, la BD, c'est... Et tu sais, faut revenir, faut se poser. Et souvent, je me suis demandé comment bien lire de la BD.
Oh là là.
T'as vu, le débat.
Waouh. Alors, moi, je lis les BD toujours avec mon point de vue d'illustratrice, maintenant. D'accord. Donc, c'est clair que moi, je les lis une fois parce que je veux savoir la fin.
Ouais.
Assez vite. Mais moi, je les relis souvent, mes BD.
Ouais.
Donc, je les relis, parce que celles que j'ai préférées pour l'histoire et tout. Mais je regarde beaucoup les illustrations. Ouais. Mais est-ce que les autres le font ? Je sais pas, moi.
Tu vois, ça me fait le même effet avec le ballet. J'adore la musique classique. J'aime beaucoup voir des prestations sportives. Oui. Et donc, ma petite sœur m'avait offert, on est allé voir le lac des Cygnes. Mais moi, il n'y a rien tant que j'aime de voir, de regarder les musiciens jouer.
Bon, bah alors.
Et en fait, j'ai des gens qui font des pirouettes et des galipettes.
Oh, bah oui, c'est ça le ballet.
Les pas chassés, les nanani. Enfin, c'est très beau. Ouais. Et le problème, c'est que pendant tout le ballet qui dure 2 heures, hein, je suis là, genre, alors, il faut pas que je les regarde, mais il faut que je regarde les mecs qui dansent. Mais j'aime bien voir l'autre.
C'est l'orchestre, en fait.
Non, mais mon Dieu, mais. Ah! Et en fin de compte, tu ressors de là, je fais, j'ai raté une bonne partie, et puis j'ai pas pu voir eux alors que j'adore. Il faut que je retourne
deux fois.
C'est ça. La première fois, je regarde que les mecs qui l'ont.
Ouais. Bah oui. C'est plus facile avec la BD parce qu'on
oui, c'est ça.
Une fois,
on l'a sous la main, on n'est pas obligé d'aller à Minsk ou à Saint-Pétersbourg pour voir le ballet national.
Mais c'est vrai qu'il y a certaines BD où parfois j'ai carrément envie d'arracher la page et de l'encadrer. Quoi. Je le fais pas parce que c'est pas bien.
Oui, non, protégeons nos livres.
Mais c'est vrai que parfois il y a des pages, elles sont sublimes. Quoi.
Ouais.
Et puis, voilà. Puis ça me fait vachement progresser aussi, moi, de regarder.
Tu t'inspires du style.
Complètement, mais c'est comme ça qu'on progresse, il n'y a pas de honte. Hein. C'est clair, c'est en regardant comment ils ont traité la lumière, comment ils ont traité le mouvement, comment ils ont traité une ellipse temporelle, tout ça, en couleur. Enfin, ouais, c'est super, ouais. C'est super intéressant de revenir dedans.
Mais toi, dans ton travail, tu t'inspires de qui? Qui t'inspire?
Bon, moi, je lis de tout en BD parce que...
Il n'y a pas un dessinateur qui...
Ah si, bien sûr. J'ai connu Tibert grâce à Margot Motin, c'est pas pour rien. Donc voilà, j'aime beaucoup ses dessins, j'aime beaucoup les choses comme ça qui sont très réalistes comme ça, des personnages et tout. Mais voilà, j'aime bien Riyad Satouf qui a un style vachement...
Totalement différent.
Ouais, voilà. Et puis qui a moins de couleurs, par exemple, qui reste sur des gammes.
Oui, c'est vrai que c'est...
Une page verte, une page rose, une page jaune, voilà. Mais non, c'est au coup de cœur comme ça. Là, à Noël, j'ai reçu, parce que maintenant on m'offre des BD, c'est trop
bien. Oh, très bien.
J'ai reçu La Nuit des Temps de Barjavel en BD.
Ah.
Alors, moi j'aime bien Barjavel. Oui. C'est vrai que ça aurait pu. Alors, La Nuit des Temps, il aurait pu être dans les livres.
D'accord. Ouais, mais tu pourras faire ton roman bonus si tu veux.
Non, je n'ai même pas fait le dernier encore.
D'accord.
Mais voilà, c'est un style complètement différent de Margot Moutin, Riyad Satouf. Là, on est vraiment plus sur vraiment du truc très travaillé, peinture et tout. Mais voilà, si l'histoire...
un bonheur.
Ouais, moi bon, carrément, c'est super.
Ok,
ouais.
Et donc le dernier?
Bon, alors le dernier...
Attention, le dernier.
Alors le dernier, c'est La Servante Écarlate.
Margaret Atwood.
Voilà.
Je ne l'ai pas lu.
Ouais, alors...
Il y a une série, tout le monde en fait des...
Il y a une série qui est géniale.
Elle est d'accord.
Elle est géniale. Elle est à la hauteur du livre.
D'accord.
Et il y a une BD aussi.
Ok.
Qui est à la... Enfin, ouais, roman graphique BD, qui est à la hauteur du livre aussi. Vraiment, tout est top.
D'accord.
Là-dessus, les gens font pas n'importe quoi.
C'est une dystopie, c'est ça?
Alors, c'est une dystopie, exactement. Donc, c'est les États-Unis qui perdent contre un nouveau régime qui fait un coup d'État, hein, clairement. Un régime qui s'appelle Galahad.
D'accord, Galahad.
Galahad, et dans ce nouveau régime, il y a un côté, on revient à l'essentiel, le monde est complètement parti en cacahuète, on s'est perdu, on revient aux valeurs de base et tout ça. Donc, c'est un régime avec des castes, clairement.
Ok.
Donc, en haut, il y a les épouses et les commandants. Donc, eux, c'est vraiment les...
Les boss.
Les boss. Voilà, c'est les gens qui, en fait, avant, dans le monde d'avant, des États-Unis, ils n'ont pas fait n'importe quoi.
D'accord.
Voilà, ils ont vécu pas dans le péché, quoi. Voilà.
D'accord.
Ils sont ni divorcés, ni... Voilà, ils sont... Donc ça, eux, ils méritent ce
statut.
Et voilà. Et ils ont aussi souvent participé à la création de ce
de Galahad.
État.
Voilà, ça,
de
Galahad. D'accord.
Après, il y a les éconos. Donc eux aussi, ils ont été... Ils ont une vie...
Ils se sont bien comportés.
Bien tenus selon Galahad.
D'accord.
Mais voilà, c'est le...
L'échelle en dessous.
La classe moyenne.
Ouais, okay. La classe moyenne.
Non, mais c'est vraiment ça.
Ok, d'accord.
Après, il y a les Martes. Alors, elles, c'est les boniches. Elles sont là. Elles servent chez les épouses et les commandants.
D'accord.
La bouffe et tout ça. Elles s'occupent des enfants, gouvernantes et tout. Ça s'appelle les Martes. Il y a les tantes. Alors, elles, les tantes, c'est celles qui font l'éducation des jeunes filles. Elles décident de beaucoup de choses. Voilà, c'est matrone, là, un peu.
Ouais.
Voilà. Et... Tout en bas.
Les impures, quoi.
Voilà, il y a les servantes.
Ok.
Et les servantes, c'est les femmes qui ont une mauvaise vie avant, donc divorcées, un certain nombre de choses. Voilà. Mais elles sont fertiles. Et ça, c'est ce qu'on leur demande. Parce que dans ce monde-là, on imagine que le monde est en train un peu de effectivement, partir en cacahuète et
d'accord.
Les femmes n'arrivent plus à enfanter parce qu'il y a une infertilité grandissante.
D'accord.
Et eux, ils veulent régler ce problème parce que la femme est censée enfanter.
C'est son rôle.
Voilà. Sauf que les épouses des commandants, là, elles sont la plupart du temps infertiles. Donc, dans leur monde à eux, c'est que les femmes qui sont infertiles.
D'accord.
Les hommes, c'est pas de leur faute.
Ah, d'accord.
C'est la faute de la femme. Hein, donc,
okay.
On régresse fortement. Et ces servantes-là, en fait, sont censées enfanter pour les épouses.
D'accord.
Donc, ils ont créé une espèce de cérémonie. Donc, les servantes, chaque servante est
attribuée
à une famille.
Un couple, d'accord.
Un commandant ou une épouse.
Ouais.
Et en fait, une fois par mois, lors de la période d'ovulation, n'est-ce pas, ils font une cérémonie où ils lisent un passage de la Bible qu'ils ont bien mis pour leur... qui va bien avec ce qu'ils ont là, hein, hors contexte, tout ça, un truc qui date des patriarches, donc d'accord, à l'époque où il y avait encore la polygamie et tout ça, et où les servantes pouvaient enfanter pour le patriarche, enfin bref. Donc, en fait, ils lisent leur petit passage de la Bible et tout, et après, la servante se positionne entre les jambes, en fait, de l'épouse, et elle se fait violer, en fait, par le commandant, qui regarde seulement son épouse, comme si, en fait, elle n'était pas là.
Ah oui, elle n'existe pas, il fait l'amour par translation avec sa...
Voilà, il regarde son épouse, il n'y a aucun sentiment, machin, rien, c'est un acte purement de d'accouplement, mais en par viol.
D'insémination.
Insémination,
voilà.
Exactement.
Voilà.
Et voilà, et c'est une espèce de... Ils appellent ça la cérémonie.
D'accord.
Voilà, tous les mois, en espérant qu'elle tombe enceinte, et comme quand elle l'accouche, elle accouche également entre les jambes de l'épouse, et tout de suite le bébé en fait est remis à l'épouse.
Voilà. Charmant. C'est charmant. Voilà. Ce pitch est charmant.
Non, mais ça fait hyper froid dans le dos. Hein. Oui, ça fait hyper froid dans le dos, ce livre. Hyper réaliste. Et donc on suit en fait la servante écarlate, on suit June, qui est donc une servante. Donc c'est elle qui raconte l'histoire. C'est comme si en fait c'était son témoignage après coup, longtemps après qu'on découvrait quoi.
Elle raconte dire que si elle témoigne, c'est qu'il s'est passé des choses.
Ouais, elle témoigne un secret en fait.
D'accord.
Et donc on la suit et June, c'est une résistante un peu quoi.
D'accord.
Voilà, en fait elle se laisse faire au début, au bout d'un moment, mais elle finit par ne plus se laisser faire parce que c'est quand même une femme à qui on a arraché son enfant à l'époque où les États-Unis sont tombés et tout ça. Ils ont arraché les enfants des mauvaises épouses et ils les ont donnés à des couples. Enfin voilà.
Ça me fait penser un peu, tu sais, aux Magdalene Sisters.
Je connais
dans
pas.
Ah, c'était des filles de mauvaise vie à l'époque, c'était en Irlande.
Ah, d'accord.
Où tu avais des espèces de comment, c'est des couvents où ils enfermaient les femmes qui étaient presque réduites en esclavage par leur famille, parce qu'elles s'étaient mal comportées, elles avaient des relations sexuelles hors mariage ou étaient tombées enceintes.
Ouais.
On leur arrachait leurs enfants, donc c'était des enfants volés qui étaient donnés à des couples en Irlande, ou alors qui mouraient, donc qui étaient enterrés dans des fosses communes. Enfin, vraiment une histoire bien glauque.
C'est exactement la même chose,
Une histoire bien, bien glauque. Mmh. Voilà, je crois que c'est en Irlande et dans d'autres, du côté de l'Angleterre, et où ces femmes parfois passaient leur vie dans des blanchisseries. C'est des blanchisseuses qui passaient leur vie pas payées et à expier leurs péchés.
Oui, bah c'est exactement pareil.
C'est ça,
alors justement, il me semble que Margaret Atwood a dit que tout ce qu'elle a mis dans son livre, c'est des choses qui ont déjà existé faites aux femmes.
Bah, ça.
Elle veut rien inventer.
Ça doit être ça, à mon avis. Ah. J'ai pas lu, donc je peux pas, mais ce que tu racontes, ça a l'air d'être
tout à
fait ça, ouais.
Donc
d'accord.
Voilà. Et donc, c'est
possible. Et elle réussit à avoir d'autres enfants, enfin, je sais pas.
Effectivement, elle arrive à avoir un enfant.
Avec un commandant.
Pas avec son commandant, qui doit être infertile, probablement.
D'accord.
Donc, en fait, l'épouse lui fait faire un truc qui est pas trop légal, machin, dans leur galade, là, elle l'a fait embrasser par le chauffeur, en lui disant, il y en a qui font ça, faudra rien dire, machin, donc super, donc, effectivement, elle tombe enceinte, et sauf qu'elle arrive à faire évader son bébé, qu'elle envoie au Canada, qui est un peu la terre d'exil pour tous ceux qui...
D'accord.
Enfin, voilà, le Canada lutte complètement et tout ça.
Comme pendant la période de l'esclavage. J'aime bien les parallèles.
Ce qui m'a donné des frissons en lisant ce livre, c'est qu'il y avait plein de trucs qui faisaient penser à certaines périodes de l'histoire, ou à certains trucs où on sent que ça pourrait vite tourner, en fait, à quelque chose de pas si loin, en fait. Donc ça fout les boules. Vraiment, ça fait très peur.
Ok.
Et effectivement, après, son bébé devient une espèce d'image, une icône là-dessus. De, voilà, bébé Nicole a été sauvé, machin, elle représente un peu...
Le symbole, en fait, de la révolution.
Ouais, un peu. Okay. Donc, génial, vraiment. Et il y a une suite à ça qu'elle a écrite très longtemps après, Margaret Atwood, parce qu'elle a vraiment été sollicitée. On veut la suite, parce que La Servante Écarlate s'arrête très abruptement.
D'accord.
On reste genre,
sur sa fin.
C'est
pas ce qui se passe.
Parce qu'en fait, c'est fait exprès. C'est comme si elle avait son témoignage coupé et puis parce qu'on l'avait emprisonné, un truc comme ça. En fait, c'est plus ou moins
réaliste.
Donc,
d'accord.
Voilà, on l'a arrêté. Qu'est-ce
qui
s'est passé ?
Tu sais pas ce
qui
se passe. Voilà. Et t'es condamné à rester dans le...
Quand on est lecteur, c'est torture. Donc, je crois qu'il est sorti en 2020.
D'accord.
Le second tome qui s'appelle Les Testaments.
D'accord.
Et c'est ma dernière lecture. Voilà.
C'est ta dernière lecture, ok. Et alors, c'était bien.
D'ailleurs, j'avais un peu peur parce que je me disais, on l'a lui un peu mis la pression pour qu'elle l'écrive. Du coup, voilà, la
Peut-être
série était sortie.
Espérons qu'elle a pas fait ça par dessus la jambe, mais après, c'est que tu es une autrice de talent, donc.
Je sais bien, mais j'en
Oui, on sait jamais.
Il y en a eu d'autres, hein, des auteurs de talent, mais bon, voilà, finalement la suite. Bon, et c'est génial. Moi, j'ai adoré la suite. Alors, la suite, en fait, c'est... On suit trois femmes.
D'accord.
C'est 15 ans plus ou moins après La Servante Écarlate. On suit trois femmes qu'on a connues déjà dans le tome 1, qui n'étaient pas forcément mises en avant, qui étaient secondaires, et qui vont contribué à la chute de Galad.
Ok.
Donc c'est trop bien. Donc il y a notamment bébé Nicole.
D'accord,
qui est une grande et qui est au Canada, qui a 15 ans à peu près. Il y a une des tantes, tante Lydia, qui est un peu la chef, la matrone en chef.
D'accord.
Et qui est la dernière? Je sais plus. J'ai oublié.
D'accord.
Je veux pas. Ah. Voilà, c'est pas grave. Mais donc très bien, vraiment très bien. Je recommande de, pour ceux qui ont aimé vraiment de lire ça. Et je rebondis sur la série, parce que la série, elle s'est pas arrêtée au tome 1.
D'accord. Elle continue...
Elle a fait, mais vraiment longtemps.
D'accord.
Elle continue vraiment longtemps sur la résistance de Dune. Et j'ai bien aimé, voilà. J'ai trouvé que c'était bien ficelé. Ça trahissait pas le roman.
Ok, donc on vous conseille et le livre,
ouais, moi
et la série,
ouais, voilà.
Et donc le roman graphique.
Et le roman graphique, lui, il est vraiment sur le livre, par contre, du tome 1. Et je l'ai trouvé super aussi. Ouais.
Ok,
ouais,
ouais. Super. Et ben, on peut passer à des petites questions comme ça.
Ouais,
est-ce qu'il y a un endroit en particulier où tu lis?
Moi, je lis un peu partout, surtout en vacances, en fait.
Ouais.
Hein, parce que sinon...
T'as deux enfants, non?
Ouais, j'ai deux enfants, ouais.
Et c'est pas compliqué de trouver du temps pour lire, de s'accorder...
Ils ont grandi.
D'accord, voilà, ils ont grandi.
Aide, hein, voilà. Ils sont plus des bébés, donc ouais. Ça aide quand même. Et j'aime beaucoup lire dehors, en fait, quand il commence à faire beau au printemps, ouais. Là. Je me mets avec le premier rayon du soleil qui réchauffe. Voilà, j'aime bien me mettre dehors et lire sur le temps de la sieste. Là.
Et t'as un temps de lecture ou non, ça peut être...
Ah non, non,
tu peux te poser 5 minutes et ça te suffit? Ou vraiment, quand tu te poses avec ton livre, tu...
Ouais, si j'ai que 5 minutes, je le fais pas.
Ouais, ok.
Non. Ouais, parce
que c'est quand tu sais que t'as du temps devant toi...
C'est le week-end, quand il y a pas trop de programme. Ouais, parce que quand je commence un livre, régulièrement, voilà, quoi.
Ouais, il faut rester, avoir du temps.
Je me torche.
Et puis quand tu lis, est-ce que t'as une boisson qui t'accompagne, quelque chose que t'aimes?
Ah, j'aime bien me faire un petit cappuccino.
Ouais.
C'est vrai, parce que là, je disais que j'aimais bien lire dehors, mais quand c'est l'hiver, j'aime bien lire devant la cheminée aussi.
Ouais.
Et là, petit cappuccino.
Ok, mais bon. Et bah super, merci beaucoup d'avoir participé à ce premier What's in my bibliothèque.
J'en suis honorée, clairement.
Est-ce que t'as une petite actu dont tu peux parler là, en ce moment?
Une actualité? Mais moi, je suis sur une BD.
D'accord, t'es sur une BD, dis-le tout.
Faire le petit coup de promo.
Vas-y, on t'en prie.
Et moi, comme je dessine beaucoup sur le thème de la parentalité,
ouais.
Et tout ça depuis mes débuts, là, je fais une BD vraiment dans mon sujet. Je fais une BD sur l'allaitement maternel.
D'accord.
Donc, c'est du vécu et pas que. C'est aussi le vécu de ma communauté. J'ai fait des appels un peu aux anecdotes et tout. Et donc, elle sortira normalement fin 2022, là.
Fin 2022,
ouais,
d'accord, ouais.
Aux éditions Elle et Graine, donc voilà.
C'est... Ok,
ouais.
Ben on sera au rendez-vous.
Ouais, possible.
Merci beaucoup Anne, à bientôt.
Merci Marjolaine.
Bye.
Merci encore à Anne pour cette petite sélection des incontournables de sa bibliothèque. Dans le prochain épisode du podcast de Tiber Édition, nous partirons à la découverte de Dracula en compagnie de Livia Caruso. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.